I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 10 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10 et au verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Au reste, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Et le titre de notre sujet, c'est « Le combat de la pensée ». C'est un chapitre qui établit l'autorité particulière de l'apôtre Paul dans l'Église primitive, cette autorité qui lui est donnée directement de la part de Dieu. Et en particulier, ceci dévoile l'esprit d'incrédulité et nous montre des choses qui sont si importantes pour nous. Mon premier point sera l'autorité apostolique, et ensuite nous verrons le combat de la pensée. L'autorité apostolique de l'apôtre Paul. La première phrase montre ceci. Au reste, moi, Paul. Peut-être que si vous lisez de manière superficielle, vous ne trouvez pas que ceci est important. Mais en grec, c'est souligné. Et c'est l'apôtre Paul qui annonce son ministère d'apôtre. Et c'est important qu'il fasse ceci dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Parce que l'Église a été infiltrée par des faux enseignants. Et parmi ces choses que les faux enseignants ont fait, ils ont dénigré l'apôtre Paul qui a amené l'Évangile aux Corinthiens. Et il y a eu une œuvre extraordinaire parmi eux. Beaucoup de gens se sont convertis. Et la jeune Église, cette grande Église active, était composée de gens qui étaient réellement convertis dans sa majorité, mais pas sans problème, parce que ces faux enseignants qui se sont infiltrés, qui sont venus de Judée, l'une de leurs techniques, c'était de dénigrer l'apôtre Paul et de le dénoncer constamment et de le critiquer constamment. Et nous allons parler de ceci plus tard. Certains dans l'Église ont été emportés et ont été convaincus par ces faux enseignants. Et ils ont commencé à penser qu'on ne pouvait pas faire confiance à Paul et certains l'ont accusé d'être trop hardi. Il était apôtre, comme vous savez, il y avait les 12 apôtres. L'un qui a trahi le Seigneur et qui a été remplacé dans Actes chapitre 1. Puis il y a Paul qui est comme un avorton, il nous dit, mais comme les autres apôtres, sa mission lui a été donnée par le Seigneur ressuscité. Ces apôtres, et ceci n'a jamais été répété dans l'histoire de l'Église, c'est ce qui s'est passé. Ces apôtres ont été envoyés particulièrement par le Seigneur ressuscité. Et ils ont été authentifiés également, parce qu'ils pouvaient faire des miracles. Nous savons aujourd'hui que le mouvement charismatique dit que toutes sortes de chrétiens ont la capacité de faire des miracles. Mais selon l'Écriture, uniquement les apôtres faisaient ces miracles. Si d'autres avaient la capacité de faire ces choses, alors les gens n'auraient pas eu de direction claire sur qui sont les apôtres. Et c'était particulièrement important pour authentifier les apôtres. Et seuls les apôtres avaient ces miracles d'authentification et la capacité de faire des signes et des miracles, parce que eux portaient la révélation du Nouveau Testament. Ainsi, ils devaient être authentifiés. Ils étaient ceux qui ont donné la parole de Dieu. Ainsi, les apôtres avaient des signes et des miracles d'authentification pour montrer qu'ils étaient apôtres. Et de même, Paul, bien sûr, a été accepté par les autres apôtres comme faisant partie de ce groupe d'apôtres. Et il a donné des prophéties lui-même qui ont été accomplies pendant sa vie, constamment. Quand vous lisez le livre des Actes et quand vous considérez ces choses, il y a des prophéties de l'apôtre Paul qui, peu de temps après, se sont accomplies. Des choses auxquelles on ne pouvait pas s'attendre, humainement parlant. Ceci fait partie de son authentification en tant qu'apôtre. Et Dieu nous a donné les apôtres parce que l'Église du Nouveau Testament est née dans une révélation nouvelle. Les épîtres, les évangiles, ceci est essentiel pour nous pour que la parole de Dieu soit complète et entière. Et elle est entière à présent. Tout est là pour décider de toute chose pour notre foi. L'autorité de l'apôtre Paul est très importante. Il exprime ceci ainsi. « Au reste, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Il n'était pas un apôtre qui était comme un chef qui commandait les gens. Non, il les implorait en tant que chrétien qui aimait le Seigneur et qui devait tant de choses au Seigneur et qui lui obéissait. Et il raisonnait avec eux, il implorait et il citait les Écritures d'une manière si acceptable et douce. « Je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, qui s'est donné comme serviteur pour nous racheter. » Et la deuxième partie du verset se réfère aux critiques. « Moi qui suis humble en votre présence. » Eux, les faux enseignants, disent, et nous les appelons les judaïsants, la raison pour ceci est évidente dans un moment. « Moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. » Ils disent « Oh, je suis si fort dans mes lettres, plein de hardiesse, mais quand je suis sur place avec vous, je suis si faible. » Physiquement, l'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui était grand et qui avait une grande stature, mais c'était un homme petit. Et sa parole, il parlait comme un homme qui était cultivé, mais pas agressif, militant. Il ne tonnait pas en chair. Et ces Grecs, ils aimaient le raisonnement des choses qui étaient belles à entendre, même s'ils ne comprenaient pas la moitié de ces paroles. Pour eux, c'était leur culture, c'était l'autorité dans des capacités oratoires extraordinaires. Mais l'apôtre Paul n'était pas ainsi. Il parlait de manière simple, directement, sincèrement. Ainsi, c'était facile pour ceux qui le critiquaient que de penser qu'il était faible, qu'il n'avait pas de puissance oratoire. Et il y a une certaine vérité en cela. Quand l'Esprit était présent, les cœurs de multitudes de personnes étaient touchés. C'était un homme malade. Constamment, il souffrait d'affliction et il était persécuté tant. Et c'était un homme qui était affaibli et qui était âgé avant son temps. Mais quand il parlait, sa parole pénétrait dans les cœurs. À présent, j'en arrive au verset 2. « Je vous prie, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Cela signifie, je vous prie, considérez la vérité de la parole de Dieu, de ne pas être persuadé par ces faux enseignants, de manière à ce que quand je vous visite, je n'ai pas besoin d'être plein de hardiesse dans ma présence, comme je suis quand je vous écris. Je veux venir et avoir cette communion fraternelle avec vous et non pas avoir cette tâche d'avertir l'Église, d'avertir contre les faux enseignants. » Ensuite, il mentionne ceci. La deuxième partie du verset 2. « Quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Ils nous jugent selon leurs principes. Ces judaïsants vivaient des vies confortables, riches, et ils rassemblaient de grandes offrandes. Et une grande partie de ces offrandes, d'une manière évidente, allait dans leur propre poche. Ils les gardaient. C'est là ce qu'ils faisaient, rassembler de l'argent. Et ils suivaient les apôtres, et en particulier dans les territoires non-juifs, là où les églises étaient formées. Rapidement, les judaïsants entraient pour essayer de gagner ces églises à leur cause, pour ramasser de l'argent et avoir une bonne réputation. C'était des gens qui avaient beaucoup de capacités, qui étaient rusés, qui savaient comment parler, comment raconter des fables, des histoires. Ils avaient une bonne capacité oratoire. Et certains avaient des personnalités impressionnantes, apparemment. Ainsi, ils allaient parmi les églises pour ramener les gens à eux. L'apôtre Paul dit qu'ils nous jugent selon leurs principes. Ils pensent que nous sommes comme eux, que nous, les apôtres, nous faisons ceci simplement pour l'argent, pour le gain. Mais pour être sûr que les gens n'ont pas pensé ceci, l'apôtre Paul n'a jamais accepté de l'argent, un salaire. Les églises qui étaient formées disaient « Oh, on aimerait payer ton voyage pour aller dans la prochaine ville. » Ils disaient « Non, je vais payer moi-même. » Et ils faisaient des tentes. Les juifs, même les intellectuels, avaient toujours une activité manuelle. L'apôtre Paul a été formé pour faire des tentes et il travaillait de ses mains pour gagner de l'argent, pour que personne ne puisse dire que lui a pris de l'argent pour lui-même. Et cependant, ils l'ont accusé malgré ceci. quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair, que nous étions simplement rusés et que nous manipulions les gens selon nos propres principes. Mais au verset 3, l'apôtre Paul répond, et c'est là notre deuxième point, l'apôtre Paul se confie dans la puissance de Dieu, car quoique nous marchions dans la chair, oui, nous sommes des êtres humains et nous sommes sujets aux limites des êtres humains. Nous savons ce que c'est que d'être épuisé, d'être faible et de souffrir, d'être malade. Nous marchons dans la chair avec toutes ses limites, mais nous ne combattons point selon la chair. Nous ne combattons pas dans ce combat spirituel selon la chair. Pour inviter les gens au Seigneur, nous ne combattons pas ce combat de la sainteté, ce combat de l'évangélisation. Nous ne faisons pas ces choses selon des techniques terrestres et le raisonnement humain, la manipulation, la sagesse humaine et des manières rusées. Non, nous dépendons de la prière, de la prédication et de la puissance du Saint-Esprit. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. C'est là la tragédie de la société d'aujourd'hui qui marche entièrement selon la chair. Et la société essaye de voler, d'attirer l'esprit des hommes avec des techniques humaines entièrement. La société a changé comment? Comment est-ce qu'elle a changé dans les 50-60 dernières années? Le raisonnement, la société athée qui dit aux hommes et aux femmes « Oh, regardez, votre religion n'est pas bonne pour cette raison et cette autre raison. » Il y a ce raisonnement humaniste qui est bien supérieur. Non, c'est quelque chose qui est fait de manière subtile par le divertissement, la fiction, les romans et par des choses subtiles pour amener des gens loin de Dieu. Ainsi, une société qui avait des principes moraux qui étaient forts dans le passé, à présent, ces choses ont changé, et en particulier par des fictions et des romans. Et ces choses remplissent la télévision et les livres jusqu'à ce que la société a complètement changé. Et c'est un lavage de cerveau avec toutes ces choses immorales de la télévision et du divertissement. Et ensuite, ils vous disent « Oh non, si vous n'êtes pas d'accord avec ces choses, vous ne pouvez pas avoir cette position, vous ne pouvez pas avoir ce poste. » Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses immorales, ensuite il y a ces menaces et la cruauté même dans une société qui est soi-disant civilisée. C'est ainsi que l'athéisme œuvre. Et toute cette manière de penser de l'athéisme, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, pas de révélation de Dieu, pas de critères moraux absolus écrits dans le cœur de l'homme par Dieu, et pas de jugement de la part de Dieu, pas de fondement. Rien de ces choses dans l'esprit athée. C'est là l'athéisme moderne. Et c'était de même en ces jours-là à Corinthe. Corinthe était l'une des villes les plus immorales de l'Antiquité. Et l'apôtre Paul continue au verset 4 « En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, pleines de manipulation, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. » C'est là ce qui s'est passé à Corinthe. L'évangile a été prêché. Les gens dont l'esprit était si païen, polythéiste, ils ont entendu la vérité et réalisé la vérité. Un seul Dieu et ses critères moraux absolus. Et le fait qu'ils sont si loin de Dieu à cause de leurs péchés, de leur culpabilité, et l'œuvre de Dieu en Christ qui a expié les péchés pour les pécheurs et qui renouvelle notre esprit. Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Et un grand nombre de personnes ont été converties de ville en ville et toute leur disposition d'esprit a été transformée. Il y avait ce lavage de cerveau et toute cette culture. Et cependant, ils ont été transformés. Imaginez la puissance, au temps de l'apôtre Paul, de ces corps de métier idolâtres. Et il fallait appartenir à ces corps de métier parce que, si vous renonciez à l'idolâtrie, vous étiez expulsé de votre corps de métier et vous ne pouviez plus exercer votre métier. Il y avait une telle emprise sur cette société païenne, et cependant les gens étaient convertis par milliers et sont venus à Christ et se sont tenus fermement pour lui. Ceci fait partie de renverser les forteresses. Et vous voyez ceci dans l'histoire au temps de la Réforme. Il y a cette emprise de l'Église catholique qui a été renversée. Et c'est extraordinaire que quelques moines ont pu renverser l'Église catholique de Rome par leur prédication, et des milliers de personnes ont été transformées et converties, et l'Église de Rome n'a rien pu faire contre cela. Elle a menacé et était si cruelle, et il y a eu tant de martyrs. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, c'est la prédication et la prière, et la puissance et l'opération de Dieu dans les cœurs qui délivre les gens de leurs limites dans leur raisonnement. On dit que pendant la Réforme, ce pays a à nouveau reçu sa capacité à réfléchir, parce qu'avant il y avait tant de superstitions, tant d'emprises de l'Église de Rome. La Réforme et la Bible ont redonné la capacité de réfléchir aux gens de ce pays, et c'est le cas dans beaucoup de pays. Au verset 5, l'apôtre Paul oppose cette disposition d'esprit avec celle de l'athéisme pour détruire les raisonnements. Ces choses qui sont contre la connaissance de Dieu, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et c'est exactement ce que c'est que l'athéisme, l'humanisme moderne, c'est contre toute notion de Dieu. L'athéisme rejette tout ce qui vient de la révélation de Dieu, ainsi il n'y a pas de fondement. Rien n'est donné. Rien n'est accepté comme fondement, mais avec la perspective chrétienne, il y a de grands fondements, des principes qui sont donnés, qui sont le fondement pour toute pensée. Il y a un Créateur. Il a un plan pour nous, un dessein, un but. Il ne peut pas être connu à moins qu'il ne se révèle lui-même. La révélation de la Bible. Et la Bible est la parole de Dieu. Il y a un fondement que Dieu a donné, et Dieu a donné des critères moraux de conduite qui sont absolus, et nous serons jugés en fonction de ces choses. Et cependant, Dieu, dans sa miséricorde, même si nous sommes loin de lui, il a donné le salut et le chemin de la rédemption, de la vie. Ces choses sont un fondement, un monde créé, un Dieu au ciel. Toutes ces choses doivent être mises de côté par l'athéisme, et alors on n'a plus de fondement, et vous êtes à la merci de toutes sortes d'opinions. Et par un moyen ou par un autre, vous devez trouver une théorie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Créateur, pas de critères moraux absolus. Nous voulons la liberté de changer les critères moraux, de les abandonner. Et c'est là la société dans laquelle nous vivons. Oh, ce n'était pas le cas dans la plupart de l'histoire. Tous les gouvernements dans le passé, oh, qu'ils étaient croyants ou non, c'est un autre débat. Mais quelqu'un comme Abraham Lincoln, il acceptait l'éthique chrétienne, le concept de Dieu, la perspective chrétienne, la création, la révélation et des critères absolus. Il ne croyait pas dans la possibilité d'une relation personnelle avec Dieu ou d'une vie après la mort, et ceci est tragique pour lui. Mais son opinion venait de sa perspective chrétienne. De même pour Winston Churchill, il avait tous ses instincts qui étaient justes, et il voyait ce qui se passait en Allemagne avec Hitler, ce qui se développait. Qu'est-ce qui lui a donné cet instinct? C'est une perspective chrétienne. Il croyait en Dieu, il croyait dans la révélation, il croyait dans des critères moraux absolus. Et autant que nous pouvons le dire, il ne croyait pas dans une relation personnelle avec Dieu. Ou il ne croyait pas dans la vie éternelle. Et si c'était le cas, c'est une tragédie pour lui. Mais pourtant, ce qu'il avait lui a été donné par une perspective chrétienne. Et si vous mettez ces choses de côté, vous n'avez pas de fondement. Et je peux vous dire que dans les années 60, il y avait un prédicateur qui était bien connu pendant un certain temps parmi les milieux étudiants et académiques. C'était Francis Schaeffer. Il avait un centre de conférences en Suisse. Mais il y avait des foules, des gens qui venaient, toutes sortes d'académiques qui le visitaient. Et dans son ministère, il soulignait quelque chose. C'était les perspectives du monde. Il voulait que les gens comprennent que la perspective chrétienne était attaquée et qu'on voulait la mettre de côté. et toutes les conséquences qui allaient venir en résultat de ceci. Et dans les années 60, il parlait dans les campus étudiants dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, bien sûr. Et il parlait à des milliers d'étudiants. Et ces étudiants en lettres, en sciences, venaient à ces conférences. Et il expliquait l'histoire du rejet de la perspective chrétienne et ce qui allait se mettre en place pour remplacer ces choses. Et les yeux de beaucoup d'étudiants ont été ouverts. Ils ont été choqués. Et ils réalisaient qu'il n'avait pas de réponse, pas de critique, parce qu'il avait raison. Et j'ai entendu de la part de beaucoup d'universitaires dans les années 60 et 70 combien c'était embarrassant. Et beaucoup ont réfléchi. Et les étudiants commençaient à poser des questions. Et qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Et les universitaires expliquaient leur point de vue humaniste avec beaucoup d'autorité. Et les étudiants démontaient ceci et ne pouvaient pas répondre. Et ils étaient embarrassés, ces professeurs. Et sa perspective humaniste était remise en question. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis parmi les universitaires par l'œuvre, le ministère de Francis Schaeffer. Et à présent, nous pouvons voir la ruine morale et l'avancée de la moralité alternative et les conséquences dans notre société d'aujourd'hui. Et nous voyons ces conséquences. Mais ces gens qui ont été impressionnés par le docteur Francis Schaeffer, tous n'ont pas été convertis. Certains étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'alternative à la perspective chrétienne et que la perspective humaniste est quelque chose de terrible qui nous mène nulle part. Ils étaient convaincus de cela, mais certains ne se sont pas convertis et n'ont pas donné leur cœur à Christ, ils ne sont pas venus à lui, ils n'ont pas connu cette grâce, cette conversion. Ainsi, ils étaient entre deux. Et j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont été affectées par la pensée de Francis Schaeffer et d'autres dans ces temps-là. Et certains, et c'est très triste, ils disent « Oh, je ne peux pas me confier dans ce monde, je n'ai pas confiance dans la politique, dans ces théories. » C'est dans un état de destruction, de ruine. Et je crois dans la perspective chrétienne, mais je n'adore pas Dieu et je ne crois pas dans une relation personnelle avec Christ. Ainsi, ils sont nulle part. Ils ont gagné ce combat de la pensée, mais pas le combat du cœur. La pensée était convaincue, mais le cœur ne s'est jamais soumis à cela. Et quelle tragédie, c'est terrible. Et j'ai parlé à d'autres personnes qui disent « Oh oui, dans ma jeunesse, quand j'étais faible, dans mes émotions, oh, j'ai vu la vanité de l'homme sans Dieu. » Et j'ai réalisé ces choses sans une perspective chrétienne, c'est vanité, des vanités. Mais ceci est passé, je ne veux pas y repenser. J'ai suivi mon propre chemin et j'ai réussi dans le monde. Oui, j'avais ces pensées quand j'étais jeune, mais je n'aimerais pas en parler. Je n'aimerais pas discuter de ces choses. Ainsi, nous rendons la pensée silencieuse. Et la porte de notre pensée a été fermée, verrouillée. Quelle tragédie! Que d'avoir une certaine lumière, mais pas une lumière qui sauve. Une certaine lumière, mais pas la flamme qui est vitale, essentielle, pour nous donner la vie éternelle. Oh, ceci peut se passer, mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Mais le combat de la pensée est gagné. C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire dans la deuxième partie du verset 5. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est là la vraie liberté de venir à Christ, de se confier dans sa mort expiatoire à la croix du calvaire, de se repentir de notre péché, de mettre notre foi en lui et de lui donner votre vie. C'est là la vraie liberté, la liberté de la condamnation, la liberté de la domination du péché, la liberté pour marcher avec Dieu et la liberté de le connaître, de l'explorer, de l'aimer, maintenant et pour toujours. Et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, chaque pensée, chaque idée, à l'obéissance de Christ, de l'évangile de Christ, et à la domination de Christ, c'est là le combat de la pensée et du cœur.